Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. La guerre en Ukraine, depuis le 24 février dernier, des villes et des villages bombardés, des populations civiles martyrisées, des infrastructures détruites, 1 200 000 réfugiés à cette heure, des images choquantes, bouleversantes, une opinion publique internationale révoltée et solidaire, et chacun d'entre nous qui éprouve de la peur, de l'anxiété, 90% des Français inquiets selon une récente enquête du CEVIPOF et de la Fondation Jean Jaurès, une angoisse qui nous submerge à mesure que nous nous informons grâce au travail des journalistes essentiels en cette période. Saluons le courage des reporters comme Vanessa Descoureaux, Liseron Boudoul, Dorothée Olyric, Karen Lajon, pour n'en citer que quelques-unes en cette journée internationale des droits des femmes. Comment cette actualité anxiogène influence nos humeurs, notre morale? Comment éviter que les enfants et les adolescents ne s'inquiètent trop, eux qui sont des éponges émotionnelles? Comment rester informé sans être dépendant des chaînes info et des notifications d'actualité sur nos téléphones? Journée spéciale sur France Inter et le Standard qui vous est ouvert pour vous écouter au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter. Racontez-nous ce que vous ressentez en ce moment. Bonjour Éric Libio.
Bonjour Ali.
Un peu de légèreté dans ce monde de brut avec vos choses presque vues.
On va essayer. Aujourd'hui, on va parler bibliothèque et petit vélo à guidon chromé au fond de la cour.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi. Grand Bien vous fasse.
La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école. Elle est là, sous nos yeux.
Dans la nuit ukrainienne, la crainte du pire. Il est un peu plus d'une heure du matin lorsque des tirs de chars russes retentissent.
J'ordonne au ministre de la Défense,
cette fois c'est au cœur d'un
et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat.
Les jours à venir vont être encore pires, avec davantage de morts, davantage de souffrances et davantage de destruction.
Mixage signé Claire Destacan. Bonjour Serge Tisseron.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes psychiatre et psychanalyste. Vous enseignez à l'Université de Paris et vous avez récemment publié chez RS 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir. Bonjour docteur Christine Barrois.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et psychothérapeute spécialisé dans la gestion du stress, de l'anxiété, du burn-out et de la dépression. Bonjour Pascal Lardelier.
Bonjour.
Vous êtes professeur en sciences de la communication à l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Dernier ouvrage paru chez MKF, La bonne distance, petite anthropologie d'une crise sanitaire. Alors docteur Christine Barrois, pourquoi est-il normal d'avoir peur en ce moment? Cela n'a rien de normal d'avoir peur en cette période très difficile?
Évidemment. C'est-à-dire que la peur est une émotion qui est humaine. Nous sommes humains et voilà, il y a un danger qui est réel. Je pense que Monsieur Poutine ne rit pas. Et je pense que voilà, le président de la République nous disait que la guerre, voilà, c'est plus dans les livres d'histoire, c'est actuel, c'est en Europe, c'est à 3 heures de chez nous. Et c'est un sentiment qui est et une émotion qui nous transporte complètement, qui peut nous paralyser. Et effectivement, elle est bien réelle.
90% de personnes inquiètes par l'invasion, par la guerre en Ukraine, selon une vaste enquête Ipsos Soprasteria pour le CEVIPOF, la Fondation Jean Jaurès et Le Monde. Serge Tisseron, pourquoi ne faut-il pas avoir peur de son inquiétude, de son anxiété?
Alors oui, alors d'abord, il faut voir que les mots qui sont prononcés sont terrifiants. On parle de menaces nucléaires, de baisse tragique du niveau de vie, crise du pétrole, produits alimentaires, gaz, etc. Donc c'est bien normal d'avoir peur. Mais effectivement, il faut se rappeler que la peur, elle existe chez l'être humain pour mobiliser ses ressources. Voilà, en situation de stress, on mobilise l'ensemble de ce qui nous est possible sur le plan mental, sur le plan physique. Donc cette peur, c'est un levier pour faire face. Mais en même temps, il faut comprendre qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, et notamment l'idée qui peut nous venir, qu'on aurait peut-être dû se réveiller plus tôt. Quand même, il y avait ce qu'on appelle des signaux faibles, et puis ils n'étaient pas si faibles que ça, quand même, venant de la Russie. Donc il y a aussi cette gêne, presque cette honte de découvrir tout d'un coup qu'on se réveille un peu tard, et que si on s'y était pris avant, l'Europe aurait pu mieux s'y préparer, et peut-être l'Ukraine aurait pu être mieux armée. Voilà. Et donc il y a tout ça qui est mélangé. Mais je crois qu'il faut, ce qu'il faut retenir de cette peur, c'est que il faut pas la combattre, il faut lui fixer des objectifs, voilà, de manière à ce que cette peur nous porte vers une transformation en profondeur de notre société pour faire face à une situation internationale complètement inédite.
Christine Barrois, rappelez-nous ce qu'est l'anxiété exactement.
L'anxiété, c'est une peur qui est sans objet. La peur, c'est quand il y a un serpent devant moi ou quand il y a un danger qui est réel. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler, c'est que génétiquement, on est comme au paléolithique. L'homme des cavernes que nous étions, il y avait deux choses à faire dans la journée, c'était manger et pas se faire manger. Alors que là, dès lors qu'il y a une peur sans objet, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tout de suite là maintenant, c'est vraiment cette anxiété qui peut aussi nous embarquer, puisque cette fois, c'est dans notre mental que cette peur... commence à se nourrir.
La guerre en Ukraine intervient alors que nous subissons deux années de crise sanitaire. C'est un stress majeur, supplémentaire, qui s'ajoute à une décennie de terrorisme, à l'angoisse du dérèglement climatique. Pascal Lardelier.
Oui, c'est vrai. On se souvient de cette exclamation de la marionnette des Guignols, PPD, qui tous les soirs, il y a 20 ans, ouvrait son journal. Vous regardez trop la télévision. Et qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans? Il y a eu l'apparition des chaînes d'info en continu, il y a eu l'apparition des réseaux sociaux, et c'est vrai que la surcharge informationnelle, elle a été décuplée. Donc c'est vrai que par-delà... critiquer ce qui ne saurait être question les journalistes et leur travail, c'est déjà notre rapport aux médias et à l'information. Et nous sommes tellement dans une société de l'écran total désormais que nous avons au creux de nos mains, nous avons sous les yeux, nous avons dans les transports, nous avons partout ces informations. Et bien évidemment, c'est vrai que leur carburant principal étant pour une grande partie d'entre elles l'émotion, eh bien on comprend que, comme le disait Georges Ticheron, tous ces mots qui font sens, qui sont chargés émotionnellement de menaces, de peur, d'exode, de mort, eh bien ça ne nous laisse pas indifférents et que nous réagissions effectivement avec de l'angoisse, avec de l'anxiété, étant entendu que l'homme et la femme de la rue ne parlent que du traitement médiatique du Covid et maintenant de la guerre, en fait.
Serge Tisseron, difficile d'encaisser tous ces stress successifs.
Oui, ça fait beaucoup. Alors, en même temps, on parle beaucoup moins du Covid. Alors, est-ce parce qu'il y a la guerre en Ukraine? Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est de prendre la mesure du fait que, comme on l'a beaucoup dit pendant le Covid, résister ensemble. C'est-à-dire, ce qu'on peut faire, aide les autres, ce que les autres font nous aide. Donc, il y a peut-être toute une dynamique sociale à réinventer là autour, parce que une pénurie de produits alimentaires, d'essence, il faut bien comprendre aussi ce que ça va signifier en termes de nécessité de réinventer la vie sociale, d'organiser beaucoup plus de chaînes d'entraide, de collaboration. Pendant le Covid, des gens ont fait les courses, des personnes seules, des personnes isolées, des personnes qui avaient peur de sortir, ben il va falloir continuer à cultiver ces attitudes, faire beaucoup plus de covoiturage, économiser beaucoup plus d'électricité, peut-être se chauffer moins. Donc il va falloir finalement, bien qu'on ne parle plus de crise climatique, parce que ça paraît presque du luxe, bien qu'on ne parle plus de crise climatique, je pense qu'il faut comprendre que toute cette nouvelle vie sociale qu'on va bien être obligé d'inventer, finalement elle va être positive par rapport à la pollution énergétique dans laquelle on est actuellement.
Le regard du sociologue.
Oui, alors position résiliente qu'on ne peut que saluer, parce que effectivement un petit peu d'optimisme dans un environnement qui est un marasme effectivement dramaturgique, et pour cause, parce qu'il y a une guerre, il y a du malheur et on ne saurait l'occulter, même s'il y a une narration médiatique et des obsessions médiatiques sur lesquelles je reviendrai peut-être, parce que le Covid a complètement disparu et maintenant on est sur cette question avec plein d'autres causes et plein d'autres choses qui de fait sont rejetées effectivement dans l'insignifiant. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est peut-être l'occasion de repenser le rapport à l'information, de repenser le rapport aux autres, à la société, puis à notre avenir, pour le coup.
Bonjour Jérémy Pelletier, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes directeur des études de la Fondation Jean Jaurès. En préparant cette émission, vous m'avez écrit que nous sommes en train de passer d'une société fatiguée à une société préoccupée. Je l'ai dit en préambule de cette émission, 90% des Français sont inquiets par la guerre en Ukraine. Qui sont les plus angoissés?
Alors, d'abord, tout le monde. C'est-à-dire que quand, effectivement, vous interrogez les Français et les Français sur leurs préoccupations pour l'avenir du pays, aujourd'hui, la guerre en Ukraine arrive à des niveaux très importants et au même niveau que la question du pouvoir d'achat, dont on a, par exemple, beaucoup parlé durant la campagne présidentielle. Par ailleurs, effectivement, vous l'avez très bien dit, Ali, 90% des Français aujourd'hui se disent inquiets s'agissant de la guerre en Ukraine. C'est inquiet s'agissant des conséquences économiques, évidemment. C'est inquiet s'agissant de l'extension potentielle du conflit. Mais c'est aussi inquiet d'un point de vue très existentiel avec, effectivement, la menace nucléaire où là, vous avez, effectivement, 8 Français sur 10 qui vous disent « je suis très inquiet de la guerre nucléaire ». Mais, effectivement, les Français ne sont pas inquiets de la même façon, comme vous l'avez dit. Et ça, c'est très intéressant quand vous regardez les personnes les plus inquiètes par rapport à d'autres. Les femmes, aujourd'hui, disent être beaucoup plus inquiètes que les hommes. Les plus âgés sont beaucoup plus inquiets aujourd'hui que la jeune génération. Les CSP+, beaucoup plus inquiets que les ouvriers. Et un élément très intéressant, plus vous vous intéressez à la présidentielle et plus vous êtes certain d'aller voter à la présidentielle et plus vous êtes inquiet effectivement face aux conséquences de la guerre. Donc effectivement, ça pose aussi la question du rapport à l'actualité et ça touche effectivement, en tout cas l'inquiétude touche d'abord et avant tout des gens qui consomment entre guillemets beaucoup d'actualité, si je peux parler ainsi.
Serge Tisseron, sur ce que vient de nous dire Jérémy Pelletier.
Oui, il a eu raison de nous indiquer que selon les tranches d'âge, selon le sexe, on ne réagit pas de la même manière, parce que souvent on l'oublie. Mais il a aussi évoqué la question de l'information en continu, hein, si tu l'avais évoqué. Et oui, l'information en continu nous rend nus hein, face à l'information. Il faut bien préciser les choses. C'est-à-dire l'information en continu, elle est très très émotionnelle parce que souvent il y a des interviews de gens sur le terrain, on entend des bruits de bombes, on a entendu d'ailleurs des sirènes. Et puis, en même temps, elle n'est pas du tout contextualisée, parce qu'évidemment, on est au cœur des combats. Et puis, on ne voit pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, on encaisse la souffrance humaine, on souffre ben, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'être empathique, on est des êtres humains. Donc, on éprouve de l'empathie pour les gens qui souffrent, on souffre pour eux. Et puis, on se trouve totalement démunis. Donc, il faut vraiment privilégier toutes les sources d'informations qui nous indiquent comment faire, comment intervenir, comment manifester notre solidarité. Et puis, je dirais, en famille aussi, c'est très important, ben, c'est le moment de se débarrasser des vêtements trop petits pour les enfants, ou qui leur vont plus, ou qui sont un peu usés. Il y a des tas d'enfants qui en ont besoin, donc c'est peut-être le moment de nettoyer nos placards et de commencer à faire ce grand nettoyage, hein, que les gens soucieux d'une vie différente, plus frugale, nous demandent de faire depuis longtemps.
Pascal Lardelier.
Alors c'est vrai que ces chaînes d'info en continu et les réseaux sociaux sont puissamment addictifs, hein, puisqu'en permanence on est dans une espèce de commentaire de ce qui est en train de se passer. On attend la breaking news qui sera une espèce de l'irruption de devenir dans une conjoncture. Et c'est vrai que c'est toute l'économie de l'attention, hein, que Matthew Crawford, que Bruno Patino, qui est un familier de cette maison, ont décrit dans leurs ouvrages. Et ça, c'est quelque chose qui nous oblige à une distance et à un recul sur l'information, qui n'est pas désengagement, mais qui est salutaire.
Christine Barrois.
Ce que j'ai envie de dire, c'est que l'image en continu nous donne une illusion d'impuissance. Enfin, c'est ce que disait Serge Tisseron à l'instant, c'est-à-dire que on encaisse, on voit toutes ces informations, on n'a absolument pas de contrôle. Et l'idée de reprendre le contrôle sur qu'est-ce que c'est au milieu de ma vie à moi, comment est-ce que je peux reprendre le contrôle avec des rituels familiaux, des rituels d'entraide. Voilà, l'impression de pouvoir être un peu puissant dans ce monde d'impuissance qui est de nous dire, ben voilà, là on n'a absolument pas la main, c'est vraiment complètement hors de contrôle. Comment est-ce que dans ma vie, je reprends le contrôle?
J'aimerais qu'on accueille notre consoeur Laetitia Gaillet. Rebonjour, Laetitia. Alors, vous enseignez le journalisme à Tours et vous êtes membre de la réserve citoyenne. Vous avez la charge de nous informer tout au long de la journée. Quand vous écrivez un flash, un journal, est-ce que vous pesez l'impact que peuvent avoir vos mots sur les auditeurs? Est-ce que vous pesez le sens des mots? Vous êtes attentive à certaines formulations pour peut-être éviter une certaine forme d'anxiété chez l'auditeur, l'auditrice?
Alors, en toute honnêteté, je pense pas comme ça, en fait. Moi, je choisis mes mots. Enfin, je choisis les mots qui correspondent à l'actualité qui se déroule. C'est-à-dire que un conflit comme celui-là, on sait tout de suite qu'il y a propagande, il y a plein de choses. Donc, le principe, c'est que moi, je vais sourcer, je vais regarder qui dit quoi, et je vais à chaque fois rapporter ça. Et ça, c'est mon job, de donner l'information telle qu'elle. Ça ne m'empêche pas de donner, on fait de la radio, mais des images, de choses qui sont importantes. Mais, effectivement, si je dis Tchernobyl, ça parle à tout le monde. Si je dis, si on dit le matin des explosions autour de la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine, effectivement ça parle à tout le monde. Effectivement, c'est sous angoisse. Mais faut pas croire, c'est angoissant pour celui qui le dit aussi. Donc après, le job c'est de pouvoir donner l'information la plus juste possible avec, et encore, nous on n'est pas les reporters sur place. C'est pas la même chose. Nous, on fait que retranscrire, essayer de mettre ça à plat et dire voilà, il se passe ça et on rentre par cette porte-là parce que c'est l'information qui prédomine au moment où on va rentrer dans le sujet. Donc voilà, il faut essayer d'expliquer ce qui se passe et le travail, c'est ça, c'est de choisir les mots et d'avoir les mots justes surtout.
Et comment faites-vous pour ne pas ajouter de l'angoisse à une information déjà très anxiogène?
Alors, je donne cette information-là, mais c'est pour ça que j'essaye, moi, dans mes flashs à chaque heure, enfin, c'est pas évident tout le temps, parce que là, c'est une information qui phagocyte le reste, qui fait que le reste disparaît miraculeusement ou pas miraculeusement, de manière dommageable aussi. Moi, par exemple, à 10h, je donne des informations sport et je le dis de manière assez légère. Je vais trouver une information qui, juste apaise ou peut-être pas, mais elle peut être importante dans un rituel d'information, elle peut être aussi importante. Il y a ça et il y a autre chose. Je dis pas que c'est, je le fais à l'instinct et je le fais tout le temps. Quand je trouve, je rapporte. Quand je trouve pas, je donne.
À titre personnel, quel est l'impact sur vous de cette information anxiogène depuis quelques jours?
Moi, j'avoue que quand je me suis réveillée, quand j'ai vu le push, et je me suis dit mince, ma journée va être très très longue et les mois qui vont venir vont être très très longs. J'essaye de dissocier en fait. Moi, je fais mon job, je donne les informations. Je dis pas qu'elles m'impactent pas, mais j'essaye de voilà, j'interprète l'information qu'on me donne. En fait, je suis le transmetteur. Derrière ça, il y a aussi la personne. Et effectivement, moi, mon sas, c'est le retour chez moi. C'est-à-dire que j'ai un laps de temps où je rentre chez moi et dans ce moment-là, je passe à autre chose dans mon cerveau pour pouvoir aussi l'appréhender quand je rentre chez moi parce qu'il y a effectivement ces mêmes rituels. J'ai aussi besoin de décharger ça, donc c'est terrible, mais c'est les miens qui derrière, j'arrive et je dis belle journée. Quand on me dit t'as passé une belle journée, j'ai super, super journée. Et là, effectivement, on en discute, mais ça aussi, mais effectivement, après, c'est juste 3 heures de nous. Pourquoi on est angoissé là, maintenant, alors qu'il y a l'Afghanistan, Kaboul, moi ça m'a effrayé.
La Syrie,
voilà, c'est juste le rapport, c'est affreux, cette mort au kilomètre, quoi. Celui qui est le moins loin est plus important.
Éric Thibiot.
Oui, c'est vrai que moi j'ai toujours été un grand dévoreur d'informations, aussi par mon métier de journaliste. Et puis j'ai l'impression que cette surabondance, comme disait Laetitia, c'est à la fois s'informer des choses graves du monde et puis ne pas oublier qu'il y a parfois aussi des sourires, des légèretés, une vie quotidienne qui continue. Et puis je suis très attentif au débat. En ce moment, je regarde beaucoup l'émission de France 5 qui est absolument formidable, qui s'appelle C'est ce soir, qui animé par Karim Rissouli notamment et Thomas Snegaroff. Et j'aime, c'est assez paradoxal, mais j'aime l'idée que tous ces débatteurs sont, il y a des optimistes, des pessimistes, des pédagogues, des va-t-en-guerre, cette espèce de pluralité de l'information, de pluralité des avis, j'avoue que ça me fait du bien, même si moi-même je suis incapable d'avoir effectivement un avis très 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 objectif sur la
question. Et ça a tendance à apaiser votre angoisse.
Et paradoxalement, ça a tendance à apaiser mon angoisse, oui.
Merci beaucoup Laetitia Gaillet d'être passée dans le studio. Tiens, il y a une question de Serge Tisseron peut-être
pour
vous.
Oui, c'est moins une question qu'une réflexion. Ce que vous dites, j'ai vraiment l'impression que c'est les mêmes difficultés auxquelles sont confrontés les parents. C'est retrouver l'émotion juste, pas trop, mais pas trop peu non plus, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des émotions pour faire passer les informations, mais il ne faut pas non plus que l'émotion fasse oublier l'information. Puis, quand vous dites savoir donner de la place à des petites choses, voilà, des petites choses qui maintiennent le goût de vivre, ça aussi, c'est le rôle des parents quand ils parlent avec leurs enfants de l'info. Et puis, quand vous dites, ben voilà, il y a des débats, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et tout, mais c'est la situation dans les familles. Donc, finalement, tout ce que vous faites, ben ça aide aussi les parents à adopter la même attitude avec leurs enfants.
Merci beaucoup Laetitia Gaillet, on vous retrouve évidemment à 11h et merci beaucoup à Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès. Dans quelques instants, nous verrons comment faire face à cette actualité anxiogène. Faut-il forcément faire l'autruche et s'enfermer dans une bulle pour échapper à la guerre en Ukraine? Vous le verrez, pas forcément. Journée spéciale sur France Inter et ce soir un concert Unis pour l'Ukraine diffusé sur France Inter, France 2 et TV5 Monde. Un concert présenté par Nagui et Leïla Kadour-Boudadi en partenariat avec Le Parisien pour récolter des fonds au profit de la Croix-Rouge. Au programme, Clara Luciani, Indochine, Jane Birkin, Florent Pagny, Pascal Obispo, mais également l'Orchestre National et le Chœur de Radio France. Et pour l'instant, nous écoutons une chanteuse ukrainienne, Anna Asti, qui interprète Phoenix. Mysterious.
старым хламом ненужным. В начале пятого, кажется, я отнесла разбитые чувства, чтобы опять не пораниться. Там, где была лишь сажа да копоть, теперь остался огромный пробел. Не согласилась забрать только опыт, но эту боль не оставлю себе. Я слишком гордая и не вернусь назад. Я слишком ранена, но мне так хочется жить. Я слишком сильная, чтобы упасть и не встать. Пора взлетать, это мой фирменный стиль. Все вымыла, добила, а теперь дела. Ты не сломал, мне еще есть о чем помечтать. Это любовь измотала и довела. Это любовь миг накрыла, но схлынула. Мне говорили, дура, не реви. Местами. И обещав подарить тебе сердце, я протяну лишь холодный камень. Ты будешь лежа на кафеле ночью, глотать снотворные от обиды. Ты будешь так же любить меня точно, и так же точно меня ненавидеть. Я слишком смелая, чтобы свернуть с пути. Я слишком предана, чтобы кого-то.
Anastie interprétée Phoenix.
Grand bien vous fasse. Ali Rebbi. Sur France Inter.
Comment faire face à l'actualité anxiogène en cette journée spéciale sur France Inter, unie pour l'Ukraine? Standard ouvert au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter. Racontez-nous ce que vous ressentez en ce moment. Et nous accueillons Christine Guimonet. Bonjour Christine Guimonet.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Camille Pissarro à Pontoise. Comment abordez-vous la guerre en Ukraine avec vos élèves? Et est-ce que vous ressentez une inquiétude chez eux?
L'inquiétude, elle est variable en fonction du niveau de la classe et puis de leur ressenti personnel et également parfois de leurs attaches familiales. Parce que j'ai des élèves dont les parents viennent de l'ancien espace soviétique. Mmh. Et autant certains sont restés très silencieux. Je sais par exemple que l'un ou l'une a une mère donc d'origine ukrainienne ou une autre d'origine russe. Il y en a d'autres aussi dont les parents nous ont prévenu à l'avance que la famille était coincée à Kiev. Avec l'impossibilité totale de se déplacer pour l'instant et que leur fils était particulièrement anxieux. Donc ça, on en tient compte dans la manière dont on va expliquer la guerre, parce que c'est pas une crise, hein, c'est une guerre. Mmh. Et hier matin, j'ai demandé à mon collègue de russe, puisqu'on a des élèves qui font du russe dans plusieurs classes, du russe LV2 moi j'ai les élèves russe LV3, de venir en classe avec moi, avec les premières, parce que comme ça, ça permettait d'avoir un éclairage qui soit un petit peu différent, et aussi qu'ils puissent à la fois donner son ressenti, et répondre aux questions qui pouvaient être posées par les élèves. Alors, parmi les questions qui nous sont posées, il y a des questions par rapport à la guerre nucléaire. Donc là, on a expliqué un petit peu ce que c'était la dissuasion. Il y a aussi des questions liées à la manière dont l'information se fabrique et circule, puisque la liberté de l'information en France n'est pas tout à fait la même que celle de la Fédération de Russie. Nous, on peut travailler en histoire avec les outils qui sont les nôtres, l'histoire, la géographie, la géopolitique. On utilise beaucoup les cartes et on a, en fonction de ce qu'on peut faire, des entrées qui sont différentes. Donc en histoire, géo, géopolitique, Sciences Po, on travaille sur les frontières, sur la puissance, la manière dont le pouvoir est exercé par Vladimir Poutine et dont il est instrumentalisé à des fins là qui sont vraiment jusqu'au boutiste. On peut travailler aussi en essayant de faire comprendre à des élèves qui n'ont aucune attache avec ce pays comment dans une famille entre guillemets multiculturelle il peut y avoir des narrations différentes d'un même événement et que l'État russe développe sa propre narration. Et contre cette narration, il est difficile, parce que c'est pénalement répréhensible maintenant, de développer un discours alternatif.
Si je vous comprends bien, la pédagogie détient des vertus thérapeutiques auprès de ces élèves parfois angoissés par cette guerre en Ukraine.
Disons qu'il faut mettre le curseur au bon endroit et ne pas développer ce qui peut être anxiogène, essayer de rassurer, tout en leur expliquant aussi que nous, on est historiens. Comment est-ce qu'on s'informe ? Leur faire comprendre aussi qu'on a des moyens d'information, qu'on développe des savoirs qui sont sourcés, vérifiés, recoupés, fiables, qui peuvent nous faire confiance, parce que la confiance est très importante. Et aussi qu'on ne peut pas leur prédire, comme à la météo, la situation à 7 jours.
Merci beaucoup Christine Guimonet, je vous laisse aller en cours, je crois que vous avez cours dans quelques minutes.
Serge... Oui, c'est un cours de seconde.
Merci beaucoup. Serge Tisseron, comment apaiser l'inquiétude, la peur des adolescents face à cette angoisse? Autour de moi, des adolescents très inquiets par la menace nucléaire agitée par Vladimir Poutine, très très angoissés par cette menace.
Oui, alors déjà je retiens de ce qui a été évoqué par cette enseignante que... il y a des manières différentes d'enseigner, tout d'un coup, qui sont valorisées. C'est vrai que l'enseignement traditionnel, l'enseignant explique et tout, puis là, ben, tout d'un coup, à l'occasion de cet événement terrible, on donne la parole aux élèves, on leur permet d'interagir, on regroupe des classes qui d'habituellement ne se rencontrent pas, mais qui peuvent avoir des choses à échanger, ça c'est très bien. Et puis, il faut pas oublier non plus que il y a pas que les adultes qui rassurent les enfants, je parle des ados, les enfants aussi se rassurent entre eux. Faut quand même pas oublier que dans tout groupe, et c'est valable pour les enfants comme pour les adultes, il y a ce qu'on appelle des leaders d'autorité, puis aussi des leaders affectifs. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est être capable de repérer, mais par exemple dans les familles où il y a des fratries nombreuses, les enfants qui peuvent avoir un rôle plus rassurant sur d'autres. C'est pas forcément les aînés d'ailleurs. Alors nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux enfants, par rapport aux ados? Ben, comme j'évoquais tout à l'heure, insister sur l'entraide, sur la solidarité, leur apporter le maximum d'informations, et puis insister aussi sur les valeurs quand même qui sont les nôtres, parce que quand les enfants vont à l'école, faut pas oublier qu'ils voient écrit au fronton, gravé dans la pierre, liberté, égalité, fraternité. Alors, l'égalité et la fraternité, les dictatures peuvent s'en réclamer, elles font des pirouettes pour ça, la liberté, non. Donc, je crois qu'il faudrait beaucoup insister là-dessus, à la fois à l'école et dans les familles, liberté, égalité, fraternité, ça paraissait ringard il y a quelques temps, il faut quand même le mettre en avant.
Christine Barrois, je rappelle que vous êtes psychiatre.
Alors moi j'ai envie de parler, c'est de la contagion émotionnelle, c'est-à-dire il faut aussi expliquer aux enfants d'abord que leur émotion est normale. Peut-être, ça c'est un peu mélitote, mais de leur dire finalement qu'est-ce que ça fait la peur dans ta physiologie. Et puis surtout leur expliquer à quel point elle peut être contagieuse cette peur. Et de se dire, voilà, notre histoire à nous, et comme le dit Serge Tisseron aussi, c'est de trouver dans la fratrie ou dans un groupe quelqu'un qui puisse être un peu rassurant et surtout d'être se remettre aussi dans le présent. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé. L'anxiété, c'est aussi l'anticipation négative de quelque chose qui est pas encore arrivé.
Pascal Lardonnier, par professeur en sciences de la communication.
Le témoignage de cette enseignante remet au goût du jour, de manière cruciale, l'éducation aux médias, dont on parle depuis tellement de décennies, qui est une matière sans tout à fait en être une, et c'est tellement important, dans une dimension citoyenne et critique, d'éduquer aux médias. Et puis tout ce qu'on se dit depuis un moment me pose la question du rite, puisque c'est vrai que notre rapport à l'information s'est complètement déritualisé. C'est vrai que les choses étaient bien plus simples il y a quelques décennies, la grand-messe du 20h, le journal de la mi-journée, et ce flux, ce flot d'informations en continu, c'est de l'émotion à l'état pur, on en parle depuis un long moment, et c'est vrai que je pense que prendre de la distance et de la hauteur, pour répondre finalement à la question de l'émission, eh bien c'est justement re-ritualiser notre rapport à l'information, poser des jalons, varier les sources d'informations, lire la presse, ça me semble fondamental, mais c'est vrai que ce rapport complètement compulsif que nous avons aux chaînes d'infos en continu que l'on voit partout, je parlais tout à l'heure de société de l'écran total, eh bien je crois que pour sortir vraiment de ce rapport qui est un flux, qui est un flot, eh bien il faut re-ritualiser. Et donc écouter de temps en temps le journal, par exemple celui de Laetitia Gaillet, ou lire la presse, mais arrêter, sortir du flux. Et ça, c'est une mesure de salut public pour beaucoup de personnes.
Ça a été un peu un choc le premier jour quand il y a eu l'invasion, on s'y attendait pas du tout.
C'est dur là en ce moment, ouais.
Je me sens triste quelque part, parce que l'actualité internationale, c'est vrai qu'elle est assez compliquée en ce moment.
J'ai passé 6 jours de vacances à juste scroller pour voir les nouveaux, les morts, les déplacés, les attaques, et j'étais un peu en stress quoi.
C'est dur, on a des petits, donc on essaye aussi qu'ils entendent la radio, ce qui se dit, donc on essaye d'expliquer à la portée d'un enfant de 6 ans ce qui se passe. Réfléchir tout de suite à la question, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aider.
Je trouve que ça allait déjà très mal avant.
Ça fait 6 jours que je fais que regarder ça, et depuis hier j'ai un peu arrêté parce que sinon je deviens fou quoi.
Je fais avec, j'ai pas trop le choix je suppose, parce que comme tous les jeunes d'aujourd'hui je suis connectée de partout, et donc je vois que ce soit les notifications, les posts, tout le monde repartage. Et donc,
j'ai l'impression que la guerre elle est en bas de chez moi et que... À deux doigts, on va partir prendre les armes et
c'est pas... C'est une relation avec l'actualité qu'on peut pas vraiment expliquer aujourd'hui. De toute façon, on peut pas s'enfuir de l'actualité. Je pense que c'est très important de rester connecté et de savoir ce qui se passe.
C'est assez anxiogène. Il y a des moments donnés où je me coupe complètement des infos. Donc je désactive les notifications, j'éteins la télé ou la radio et je sais pas, je vais courir, je vais faire du vélo. Enfin, je vais faire complètement autre chose et j'essaie de me couper un peu du monde parce que sinon voilà.
Propos recueillis par Alice Galtier dans les rues de Paris. Je vous lis quelques messages que nous recevons très nombreux ce matin, ces messages. Paula qui nous écrit: je suis d'un naturel très sensible et je connais avec cette guerre des épisodes d'anxiété, d'angoisse, d'étau sur la poitrine avec de fortes douleurs, avec une anticipation du pire. Où aller, où se cacher, comment protéger mes enfants, c'est irrationnel mais ça me submerge. Comment faire face à la peur d'une guerre avec peut-être une attaque nucléaire. Comment on peut apaiser Paula? Christine Barrois, voilà, elle a des symptômes très forts, physiques, psychologiques. Comment on peut l'aider?
Cette anxiété, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est l'anticipation négative de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Ou c'est une autre manière de le modéliser, c'est de dire que c'est une intolérance à l'incertitude. Et là, nous n'avons absolument aucune certitude. Donc moi, je conseillerais cette personne, c'est de prendre le contrôle de ce qu'elle peut. Mmh. Alors évidemment, il y a des techniques de gestion du stress, et une de mes litotes, c'est la méditation, c'est les exercices de cohérence cardiaque, de respiration, si elle a appris ces choses-là. Ou alors si elle...
La cohérence cardiaque, faut rappeler, c'est des exercices de respiration.
Absolument. Où on ralentit le rythme respiratoire à 6 cycles par minute. Et au bout d'un moment, en fait, on ralentit aussi le cœur. C'est-à-dire que ça fait partie un peu des outils de la résilience. Et de dire, voilà, notre système nerveux autonome, le sien, il est complètement bloqué parce qu'elle a des symptômes physiques. Ça, c'est le stress. Et l'autre versant du système nerveux autonome, c'est le système parasympathique, qui, avec ses exercices de respiration, de cohérence cardiaque, permet de vraiment se renforcer un système de repos, et en tout cas un système de repos de la physiologie.
Est-ce que vous conseillez à cette auditrice, par exemple, de se mettre dans une bulle, de faire l'autruche, de mettre l'actualité à distance, de ne plus écouter, de ne plus regarder la télévision, de ne plus lire les journaux, tout couper pour se protéger? C'est une solution, Serge Tisseron. Je rappelle que vous êtes psychiatre.
Oui, surtout pas.
Pourquoi?
Surtout pas parce que nous sommes entourés de gens qui forcément...
parle de cette guerre. Donc, il faudrait vivre sans sortir de chez soi, éviter d'aller acheter son pain à la boulangerie, parce que il y a des gens qui peuvent en parler. Donc, c'est impossible.
Mais c'est contre-productif?
Ça serait totalement contre-productif. Je pense qu'il y a deux choses importantes, en plus de ce qui vient d'être évoqué. C'est d'abord être capable de mieux rapporter son angoisse, peut-être, à ce que ça fait résonner de notre passé. Lorsqu'on a des parents ou des grands-parents qui nous ont raconté des événements terribles, qui nous ont beaucoup angoissés quand on était petit, forcément, on a affaire à l'angoisse du présent, puis on a aussi affaire à l'angoisse du passé. Si on a eu des décès dans sa famille, brutaux, des accidents, des événements sanglants, forcément, toutes les actualités vont réveiller ça. Donc, faire la part de ce qui a été nos angoisses du passé, qu'on a souvent mal dépassé, et puis ce qu'il en est des angoisses du présent. Et puis l'autre chose, ben au contraire, hein, le contraire de ce que vous évoquez, ne pas s'enfermer dans une bulle, mais parler entre adultes. Alors d'autant plus important de parler entre adultes qu'il faut arriver à bien faire la différence entre ce qu'on dit entre adultes et ce qu'on va dire à nos enfants. Or, si on n'a pas commencé à parler entre adultes, on risque de parler à nos enfants comme à des adultes, parce qu'on a envie de parler comme adultes, et ça risque de les déboussoler complètement, parce qu'on n'utilise pas les mêmes mots, on ne se laisse pas aller aux mêmes emballements émotionnels avec des enfants et avec des adultes. Donc pour protéger nos enfants, commençons à parler avec nos amis, nos conjoints, nos conjointes.
Bonjour Juliette, bienvenue.
Bonjour à vous.
Alors comment vous faites face, vous, à cette actualité anxiogène?
Moi, je suis plus sensible aux images qu'aux écritures ou à l'audition, et ce que je disais à votre journaliste que j'ai eu avant vous. Les premiers jours, j'ai été très troublée par une image d'un immeuble éventré dans une grande ville les premiers jours, et ça m'a touchée pendant plusieurs jours, cette image, et du coup, j'ai compris que j'étais sensible aux images, et je me suis limitée dès le départ. C'est-à-dire que maintenant, je ne regarde plus une chaîne d'info quelle qu'elle soit, qu'une fois par jour, le soir. Un petit moment, et je ne suis pas pendue aux chaînes d'info en continu toute la journée. Et alors, à la limite, si je veux me tenir informée en journée de ce qui se passe, ben j'écoute les infos sur France Inter ou toute autre radio. Voilà. J'écoute les flashs et je lis la presse pour me faire une opinion circonstanciée des différents événements. Voilà. Mais je ne passe pas mes journées en continu à l'écoute de ce qui se passe en Ukraine. Voilà.
Et on entend bien, Pascal Lardelier avec Juliette, la mise en scène de l'actualité télévisée joue sur le registre des émotions fortes, dans le but de capter l'attention. Et là, Juliette a décidé de mettre cela à distance, pour ne pas être trop affectée.
On y revient, c'est une narration, avec des personnages, avec des rebondissements, avec des saisons, on l'a vu pour le Covid. Et c'est vrai qu'avoir déjà conscience de ça, ça permet exactement ce que vient de dire Juliette, c'est-à-dire de ritualiser en régulant la durée, l'exposition, et en disant je ne regarde que le journal le soir, par exemple. Et ça, c'est déjà un premier pas vers un rapport raisonné à l'actualité aux médias. Ça ne veut pas dire qu'on n'y est pas sensible au malheur du monde. Ça veut dire qu'on les met à la distance critique qui nous permet de le métaboliser, si je puis dire, de manière citoyenne, mais pas de manière compulsive et hypnotique, puisque en fait, tout ça, c'est très hypnotique pour le coup.
Et Denis nous dit qu'il a coupé les notifications de son téléphone, qu'il ne regarde plus les chaînes infos, tout en continuant à s'informer en écoutant la radio ou en lisant les journaux. Et il nous dit que cela va nettement mieux. Serge Tisseron.
Oui, bien sûr. Alors, vous savez, on dit souvent aux enfants, tu manges à heure fixe, on mange à heure fixe, on ne grignote pas pendant les repas. Ben, il faut s'habituer à ce que pour l'info, c'est pareil. Voilà, on la consulte à heure fixe. Et puis, je voudrais dire aussi quand même que scroller sans arrêt, c'est terrible pour la planète. Il ne faut quand même pas oublier quoi. Je veux dire, c'est une gabegie énergétique formidable. De scroller, c'est-à-dire de faire dérouler ou l'info en continu, d'être toujours sur son smartphone. D'être toujours sur son smartphone, ça consomme une quantité d'énergie phénoménale. Et à une époque où justement, on va être obligé d'éviter le gaspillage, parce que le gaz, l'électricité vont être beaucoup plus chers, beaucoup plus difficiles à obtenir, et ben, il faut modérer aussi notre consommation d'outils numérique, et notamment éviter l'information continue, parce que ça va à contre-courant des économies que nous allons être obligés de faire.
Allez, il est 11h moins le quart, il est l'heure de retrouver les choses presque vues d'Éric Libio.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Un peu de légèreté avec vous, Éric Libio.
Alors tous les matins, quand j'ouvre les volets, mon regard se pose sur le bâtiment en face de chez moi, la bibliothèque Georges Perec. L'écrivain a vécu juste à côté, rue Villain. Alors j'ai lu tous les romans et les récits de Georges Perec avant d'habiter dans le 20e arrondissement et je me dis que le hasard fait bien les choses, titre de son premier roman. Alors aujourd'hui je vais donc invoquer un de mes écrivains préférés, Georges Perec. D'abord parce que pour affronter l'actualité anxiogène, il faut savoir s'en échapper sans la nier et que la culture peut aider, la littérature, le cinéma, les séries, les expos, la musique, l'art en général. Ensuite, parce que Perec est un de mes écrivains préférés, je sais pas si j'ai déjà dit. Enfin, parce qu'on a fêté le 3 mars dernier le 40e anniversaire de sa disparition. La disparition, justement, titre d'un roman lipogrammatique de Georges Perec, écrit sans utiliser la voyelle la plus courante de la langue française, le E. Un jeu et un exploit stylistique, assurément, mais il est une autre façon de lire ce livre. La disparition est un roman écrit sans eux, sans eux, E-U-X, sans ses parents morts pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que Georges était encore un enfant. Perec sait la douleur et pourtant il n'a cessé d'écrire pour nous distraire. Distraire, indique Alain Rey, c'est aller en divers sens, qui indique également que la notion de plaisir aujourd'hui attachée à la distraction a remplacé l'idée de diversion. Et c'est peu de dire que la carrière littéraire de Georges Perec est diverse. Il se permet tout, la mise en abîme dans un cabinet d'amateurs, l'accumulation dans les choses, le trop-plein réjouissant dans la vie mode d'emploi, la drôlerie stylistique dans un petit vélo à guidon chromé au fond de la cour, la merveilleuse répétition incessante dont je me souviens, l'apprentissage et le tissage dans Pensées classées, etc. Georges Perec n'a cessé de s'amuser avec les récits, il n'a cessé de mettre en mouvement les lecteurs à travers des livres dont ils sont aussi les héros. Lire Perec, c'est se faire balader dans la profusion des récits, mais rester éveillé, droit et attentif. Lire Perec, c'est refuser le roman national qui s'apparente à la propagande. Lire Perec, c'est toujours être conscient de la place qu'on occupe et de pouvoir en changer pour trouver la bonne distance, pour affronter un monde anxiogène, comme Perec a dû affronter la mort de ses parents. Alors s'il a écrit La disparition, Perec a aussi écrit l'exact inverse de La disparition, Les revenantes. Roman qui n'utilise comme voyelle que le E, et pour lequel, il faut l'avouer, il a un peu tordu l'orthographe. Dans ce roman, Georges Perec écrit « Je cherche en même temps l'éternel et l'éphémère ». Alors vous vérifiez, hein, il n'y a qu'une seule voyelle, le E. « Je cherche en même temps l'éternel et l'éphémère », c'est chercher sa place dans l'histoire humaine, être à la fois ce qui reste et ce qui passe, être à la fois la trace et le souffle, être à la fois la présence et la disparition. Et le soir, quand je ferme les volets, quand je regarde cette bibliothèque en sachant que le lendemain, la lumière va l'éclairer encore, quand je me souviens de Georges Perec et quand me revient cette phrase que je trouve si belle, « Je cherche en même temps l'éternel et l'éphémère qui m'aident toujours à protester, aider ou accueillir. Je vais mieux et je suis prêt à tout affronter. »
Et je me souviens de la lecture de ma vie, de la vie mode d'emploi quand j'avais 16 ans. Merveilleuse lecture et c'est vrai que voilà, Perec, c'est un plaisir
voilà,
qui...
À faire vivre.
Ouais. Merci beaucoup, mon cher Éric Libiot. Les choses presque vues à podcaster sur l'appli France Inter. Juste après le disque, d'autres conseils pour atténuer l'angoisse liée à la guerre en Ukraine. On écoute Laurent Bardenne qui interprète Oiseau à 10h48.
Avec les avions de chasse. les avions de chasse, les avions de ligne, je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau si j'étais un oiseau. Et ma vie est à terre, mon ventre est sur la pierre, où je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent, et de muse en muse, de prairies en prairies, je perpétue. D'ailleurs, je mange les œufs de colombe. Cui, 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 cui. Cui, 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 cui. Si j'étais un oiseau. Cui, 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 cui. Cui, cui, si j'étais un oiseau.
Laurent Bardenne et Bertrand Belin interprétaient Oiseau.
France Inter. Bien vous fasse. Ali Rebéi.
Comment faire face à l'actualité anxiogène de la guerre en Ukraine? C'est notre programme ce matin. Racontez-nous ce que vous ressentez en ce moment au 01 45 24 7000. Quelques auditeurs nous écrivent que la pandémie de Covid-19, ça leur fait moins peur que la guerre en Ukraine. Pascal Lardelier, je rappelle que vous êtes sociologue en sciences de la communication. Ça revient pas mal là ce matin.
Je suis étonné parce que j'ai travaillé comme auteur et chercheur sur le Covid depuis 2 ans, et c'est vrai que ça a été quand même une obsession spéculaire pour les médias et pour l'opinion, le Covid. Et pour cause, parce que c'était quand même quelque chose d'assez incroyable et historique. Donc peut-être que effectivement un événement mondial traumatique en chasse un autre. Après, on ne peut pas quantifier, pour le coup on ne peut pas quantifier, mais le Covid a été quand même un événement incroyable.
Christine Barrois, psychiatre.
Moi, je trouve, je suis assez d'accord, je pense qu'il y a un oubli. Et c'est d'ailleurs plutôt positif, ça veut dire qu'on a une capacité de résilience et une capacité d'oubli. C'est de se dire, voilà, je ne sais pas où j'ai garé ma voiture avant-hier, mais là aussi, j'ai le Covid, j'ai oublié que j'ai eu très très peur pendant le premier confinement, c'était terrible.
Serge Tisseron, psychiatre.
Oui, je crois aussi qu'il y avait pendant le Covid la possibilité du déni, et on se sentait imposé beaucoup de choses. Le confinement nous était imposé, le masque nous était imposé, mais à l'intérieur de nous, on pouvait râler et se dire, non, c'est une exagération. Ce pouvoir exagère, alors que là, on ne peut pas contester quand même la gravité de ce qui arrive et des menaces qui pèsent sur nous. Donc du coup, on voit les choses différemment.
Et puis le caractère imprévisible, opaque de Vladimir Poutine produit également une forme d'inquiétude. Le dictateur russe nous plonge dans l'angoisse, car nous sommes incapables de savoir ce qu'il veut et comment il va réagir à nos actions en Europe. Face à l'inconnu d'une menace, nous avons tendance à imaginer le pire. Serge Tisseron.
Oui, tout à
fait. Notre cerveau est fait comme ça.
Oui, surtout quand on est psychiatre, on connaît une pathologie qui s'appelle la paranoïa, et on est, je vous avoue qu'il y a de quoi s'inquiéter beaucoup par rapport à Poutine, parce que il a longtemps eu un caractère paranoïaque, c'est-à-dire dur, tranchant, inquiet, etc. Mais là, on peut se demander s'il n'a pas basculé dans la folie paranoïaque, c'est-à-dire de voir le monde comme entièrement noir, hostile, agressif, et se voir lui comme le sauveur possible de la Grande Russie. Et ça, si vous voulez, le problème d'un paranoïaque, c'est que rien ne l'arrête. Voilà. Donc,
vous êtes rassurant, là, ce matin.
Oui, mais écoutez, c'est un élément parmi d'autres. Tout à l'heure, j'ai été beaucoup plus rassurant en vous disant que voilà, c'était l'occasion d'un sursaut, de penser les choses autrement, de valoriser des comportements qui profiteront aussi à la planète et non seulement au renforcement de l'Europe et de nos liens sociaux. Mais je veux dire, on ne peut pas non plus ignorer l'autre aspect du problème.
Vous, en tant que psychiatre, comment faites-vous face à cette actualité anxiogène à titre personnel, Christine Barrois?
Alors moi, je suis une adepte de la méditation de pleine conscience. Je fais du sport et je mange des oméga-3. Je pense qu'on peut rappeler au moins ces petites choses de base qu'on peut faire pour se dire qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'a absolument aucun pouvoir là-dessus, aucune puissance, simplement, comme je disais tout à l'heure, sur ces petits rituels à soi.
Serge Tisseron,
Je fais aussi de la méditation de pleine conscience, et puis je lis, voilà, je lis, en ce moment je lis Ibsen, donc si vous voulez, je lis d'autres mondes, d'autres manières de voir les choses, un autre rapport à l'espace, au temps, donc ça me fait voyager, et pendant ce temps-là, je cultive d'autres qualités que celles qui pourraient me mobiliser par rapport à l'actualité.
Puis il ne faut pas oublier que l'action solidaire, eh bien, c'est une voie pour atténuer l'angoisse.
Oui, bien sûr. Alors ça, on l'a un peu évoqué, mais il y a beaucoup, beaucoup de collectes actuellement de vêtements auxquelles les familles entières sont invitées à participer. Et c'est très, très bien. Et surtout pour les enfants, parce que vous savez, les enfants, ils sont beaucoup plus dans la motricité que nous. On pense quelque chose, on fait quelque chose. En tant qu'adulte, on peut prendre du recul, genre, je le ferai plus tard, ou d'autres le font, j'ai pas besoin de le faire. Un enfant, il a besoin de le faire. Rappelez-vous l'histoire du riz en Somalie. Le riz en Somalie, quand il y a eu ce grand mouvement lancé par Kouchner, c'est les enfants qui ont... pousser leurs parents à acheter du riz, à l'envoyer, à tel point que très vite, il n'y a plus de riz dans les épiceries. Donc, il faut vraiment écouter nos enfants qui, eux, souvent ont ce réflexe de solidarité beaucoup plus vif, beaucoup plus à fleur de peau que nous, et ça les aide de leur montrer que nous aussi, on leur emboîte le pas. Il faut surtout pas leur faire croire qu'on ne ressent rien, qu'on essaye d'échapper, comme vous disiez tout à l'heure, à la situation. Il faut au contraire leur montrer qu'on y participe de la bonne manière.
Et pour agir de façon solidaire, vous pouvez consulter la carte interactive des actions solidaire près de chez vous, mise en place par nos confrères de France Bleu, francebleu.fr, et vous pouvez également aller sur le site Ukraine.fr qui recense toutes les initiatives solidaires. Et nous terminons avec vous, Elisabeth, bienvenue.
Allô.
Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour.
Comment faites-vous face à cette actualité anxiogène?
Ben écoutez, moi c'est tout simple. C'est une recette que j'applique dans tous les cas de figure, que ce soit quelque chose d'anxiogène autant au sens personnel ou au sens collectif. Je me gorge d'art. Voilà, d'art visuel et de musique. Bon, j'ai pas trop de... et de nature. Je n'ai pas trop de mérite parce que je travaille dans l'art, mais je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que bon, personnellement, je fais beaucoup d'expositions. Je sais que c'est payant, mais on peut visiter des expositions sur Internet, voir des tas de belles images, regarder des bouquins, etc., des œuvres d'art extraordinaires. Je crois que vraiment, on en a à profusion. Alors là, moi, j'en avale des quantités. J'écoute énormément de musique. Là aussi, c'est très simple. On n'est pas obligé d'aller toujours au concert, même si, évidemment, c'est encore mieux. Il y a les CD, il y a toutes les applis, il y a la radio, etc. Chacun sa musique préférée. Et j'habite plein Paris. Je vais dans les jardins publics et je contemple chaque arbre, chaque fleur, chaque feuille. Je regarde pousser, en plus c'est le printemps. Bon voilà, écoutez, moi c'est mon cocktail, mais alors je mets le turbo et je vous assure que c'est un excellent anti-poison. Je n'ai pas de panique, je n'ai pas de phobie et pourtant je suis l'actualité de très près, préférentiellement les débats. Je suis une éponge émotionnelle, donc quand je vois souffrir les gens, ça me bouleverse. Bon, on ne peut pas faire l'impasse. Et je compense avec toujours l'éponge émotionnelle. Donc j'ingurgite énormément d'art, de musique, de nature.
Merci beaucoup, Elisabeth. Voilà. Merci pour votre enthousiasme. C'est pas encore le printemps, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Elisabeth, mais vous êtes très optimiste. Merci à vous. Pascal Ardelier, le mot de la fin en quelques mots.
Oui, pour relativiser, j'ai longtemps enseigné l'histoire des médias et le malheur et le carburant des médias, donc relativise pas ce qui est en train de se passer, mais c'est ce qui vient d'être dit depuis un petit moment, une vie optimiste, une vie d'art, une vie constructive, de solidarité existe aussi à côté des médias, il faut le rappeler.
Et le contact avec la nature quand même, qui elle reste toujours si magnifique.
Merci beaucoup Christine Barois, Pascal Ardelier et Serge Tisseron d'être venus ce matin. La journée unie contre l'Ukraine se poursuit à 15h avec Affaires Sensibles de Fabrice Drouel, et n'oubliez pas le concert uni pour l'Ukraine ce soir sur France Inter et sur France 2 à 21h.